VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 7 mai 2018, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Pour commencer, les titres.
À Brazzaville, début aujourd'hui du procès du général Jean-Marie Michel Mokoko.
En République centrafricaine, des tirs nourris hier soir dans le PK5 à Bangui et dans des quartiers proches.
45 personnes tuées dans de nouvelles violences impliquant des voleurs de bétail dans le nord du Nigeria.
Pyongyang avertit Washington de ne pas prendre ses ouvertures de paix pour un signe de faiblesse.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Début ce lundi au Congo-Brazzaville du procès de l'ex-candidat Jean-Marie Michel Mokoko aux arrêts depuis la présidentielle de 2016. Pour les avocats de ce dernier, il s'agit d'un règlement de compte politique. Firmin Koyaweda.
Aux arrêts depuis le 16 juin 2016, le général ex-chef d'état-major Mokoko, conseiller du président Denis Sassou Nguesso jusqu'à début 2016, doit comparaître pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et détention d'armes de guerre. En mars 2016, l'officier avait terminé troisième de l'élection présidentielle, moins de 14% des voix marquées par la réélection contestée dès le premier tour du président Denis Sassou Nguesso, près de 35 ans de pouvoir au total. Après ce vote, le général Mokoko et d'autres candidats avaient appelé à la désobéissance civile. Ses avocats congolais et français ont dénoncé vendredi dans un communiqué un règlement de compte politique maquillé en procédure judiciaire et ont ajouté que ses conseillers du barreau de Brazzaville ne prendront pas la parole à l'audience et ceux du bureau de Paris ne s'y rendront pas. Ses avocats ont aussi annoncé mercredi avoir déposé une requête devant le groupe de l'ONU sur la détention arbitraire.
En République centrafricaine, des tirs nourris d'origine inconnue ont été entendus hier soir dans le quartier musulman de Bangui, le PK5, ainsi que dans des quartiers proches. Selon l'AFP, citant des témoins et médecins sans frontières, on déplore au moins 4 blessés. Des habitants ont dû prendre la fuite. Dans le quartier des Castors, en représailles à la destruction d'une mosquée, des témoins ont affirmé que, depuis samedi, des hommes armés venus du PK5 tentaient de détruire deux églises chrétiennes ainsi que des maisons de particuliers. Les forces de sécurité centrafricaines les ont cependant repoussées, selon ces témoins.
Au Mali, le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, a été investi hier candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet par une coalition de près de 70 partis lors d'une réunion à Bamako. Selon Bokari Tereta, président du RPM, la formation présidentielle, une cérémonie d'investiture sera organisée, mais il n'en a pas précisé la date. À noter qu'une autre coalition d'une soixantaine de partis politiques et associations a été lancée le 29 avril pour, je cite, « réaliser l'alternance et le changement en juillet ». Une dizaine de candidats se sont déjà déclarés.
De nouvelles violences ont éclaté dans le nord du Nigeria, faisant 45 morts au cours de violences entre des gangs de voleurs de bétail et les populations locales, ont rapporté hier des membres d'une milice. Précision de Bagasikoura.
45 corps ont été retrouvés dans la brousse, a expliqué à l'AFP un membre de la milice civile du district de Birnin-Gwari dans l'état de Kaduna. Les bandits ont attaqué samedi les habitants qui défendent le village. Ils ne cessent d'organiser des kidnappings contre rançon, des vols armés et de dérober le bétail, a-t-il ajouté. Le commissaire de police de l'état de Kaduna, Austin Iwara, a confirmé l'attaque et le bilan de 45 morts. Sans préciser s'il s'agissait de miliciens ou de bandits, vraisemblablement issus de l'état voisin de Zamfara. Le village de Gwaska, où ont eu lieu les exactions, se trouve en pleine forêt et l'accès est très difficile, a-t-il expliqué dans un organe de presse local. Pour l'instant, tout ce que l'on peut dire, c'est que 12 personnes ont été enterrées samedi et 33 dimanche, a-t-il ajouté. Selon un communiqué de l'Association des défenses des habitants de Birnin-Gwari, qui appelle la population au calme, de nombreuses maisons ont été brûlées. Et des femmes et des enfants ont été tués dans cette nouvelle attaque. La semaine dernière, des échanges de tirs entre ces milices et des voleurs de bétail venus de l'état voisin de Zamfara avaient fait 13 morts et les violences ne cessent de s'amplifier dans cette région depuis plusieurs semaines.
En Tunisie, les premières municipales libres du pays ont été marquées par un faible taux de participation de 33,7%, les Tunisiens se disant démobilisés par les difficultés économiques et politiques. Ce vote était jugé crucial pour enraciner la démocratie dans l'unique pays rescapé du printemps arabe. Un institut de sondage a donné le parti islamiste Ennahda légèrement en tête, 25%, talonné par le parti présidentiel Nida Tounes, 22%, loin devant les autres formations. Les résultats officiels sont attendus dans les jours à venir.
En Égypte, Amnesty International dénonce aujourd'hui dans un rapport l'isolement carcéral prolongé de prisonniers politiques et les violences physiques auxquelles ils sont soumis dans les prisons égyptiennes. Pour l'ONG, ces faits constituent un acte de torture. Le régime du président Abdel Fattah al-Sissi est régulièrement pointé du doigt par les organisations de défense des droits de l'homme qui dénoncent la répression des opposants et des libertés individuelles.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président allemand Frank-Walter Steinmeier s'est dit inquiet hier des changements substantiels dans la relation transatlantique en raison des tensions entre les Européens et le président américain Donald Trump, notamment sur le commerce et le nucléaire iranien. Jean-Roger Bion.
Monsieur Steinmeier, ancien ministre social-démocrate des Affaires étrangères, qui occupe la fonction largement cérémoniale de président de la République allemande, a admis que la première économie européenne, protégée de longue date par les États-Unis via le parapluie de l'OTAN, avait besoin de grandir et de prendre ses responsabilités internationales. Mais pour parler franchement, je suis réellement inquiet de l'évolution de la relation transatlantique, a-t-il dit dans une interview à la chaîne de télévision publique ARD. Pour lui, la nouvelle administration américaine ne nous considère plus comme faisant partie d'une communauté mondiale au sein de laquelle nous agissons ensemble. M. Trump a menacé d'imposer des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium en exemptant provisoirement les Européens. Il a aussi menacé de déchirer l'accord de 2015, au terme duquel les sanctions économiques imposées à l'Iran ont été allégées en échange d'un engagement vérifiable à ne pas fabriquer de bombes atomiques.
Pour sa part, le président iranien Hassan Rouhani a souligné dans une allocution télévisée hier que si les États-Unis se retirent de cet accord conclu avec les grandes puissances, ils le regretteront comme jamais dans l'histoire. Une décision du président Trump est attendue à ce sujet le 12 mai. Le président américain a dit clairement qu'il dénoncera l'accord s'il n'est pas assorti d'amendement sur le programme de missiles balistiques de l'Iran, programme que Téhéran juge nécessaire pour sa défense.
La Corée du Nord a, elle, averti les États-Unis de ne pas prendre ces ouvertures de paix pour un signe de faiblesse, alors que le président Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un préparent leur sommet historique. Les États-Unis provoquent délibérément la Corée du Nord au moment où l'on s'achemine vers la paix et la réconciliation dans la péninsule coréenne, selon un porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Pyongyang. Il faisait allusion aux affirmations américaines selon lesquelles la politique de pression maximale et de sanctions de M. Trump a acculé Kim Jong-un à la négociation.
Ici à Washington, le nouvel avocat du président Trump, l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, a soutenu hier que le chef de l'exécutif américain n'avait pas à donner suite à une éventuelle assignation à comparaître du procureur spécial Robert Mueller. M. Mueller enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Selon lui, M. Trump pourrait utiliser le 5e amendement de la Constitution qui permet de garder le silence pour ne pas s'incriminer. Il est le président des États-Unis et nous pouvons demander les mêmes privilèges que d'autres présidents, a expliqué M. Giuliani. M. Trump a dit vendredi qu'il aimerait bien se soumettre aux questions de M. Mueller s'il était traité équitablement. La Cour suprême des États-Unis, ultime arbitre en cas de rejet d'une assignation à comparaître, a déjà eu à dire qu'aucun individu, y compris le président, n'était au-dessus de la loi.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le gouvernement congolais envisage l'exploitation pétrolière dans deux parcs naturels. L'ONG britannique Global Witness affirmait que Kinshasa veut la désaffectation ou le déclassement des zones pétrolières du parc de la Solanga Centre et du parc de Virunga Est. Global Witness rappelle que ce patrimoine est classé à l'UNESCO et demande à Kinshasa de renoncer à son projet. Les Virunga constituent le plus ancien parc naturel d'Afrique. Les réserves pétrolières y sont estimées à 6 758 milliards de barils, avec les recettes budgétaires additionnelles de 7 milliards de dollars. La télévision numérique terrestre TNT, censée être opérationnelle depuis 3 ans en Afrique subsaharienne, progresse toujours à pas comptés. Elle est seulement présente dans 9 des 48 pays qui ont achevé leur transition vers le digital. Ces pays sont tous situés en Afrique australe, orientale ou dans l'océan Indien. Namibie, Zambie, Malawi, Swaziland, Maurice, Tanzanie, Kenya, Rwanda et Ouganda. Le marché de la télévision en Afrique subsaharienne pèse aujourd'hui 4,3 milliards de dollars et conserve un énorme potentiel puisque nettement moins de 40% des foyers sont équipés d'un poste de télévision. Le taux de chômage ici aux États-Unis est tombé en avril à près de 4%, au plus bas depuis 17 ans. L'économie américaine a créé 164 000 nouveaux emplois, un peu moins que prévu. Le nombre de chômeurs est descendu à plus de 6 millions et celui des personnes ne trouvant qu'un travail à temps partiel reste obstinément à 5 millions.
À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Et bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football sur le continent avec le début de la phase de groupe de la Ligue des Champions.
Oui, il y a 4 groupes de 4 équipes. Dans le groupe A, Al Ahly du Caire et l'Espérance de Tunis se sont séparés sur un nul 0-0. Les Botswanais de Tom Shield Rollers, vainqueurs des Ougandais de Kampala City, prennent les commandes de ce groupe. Dans le groupe B, le tout-puissant Mazembe impressionne d'entrée. Victoire nette 4-1 à Lubumbashi face aux Algériens de l'entente de Sétif, avec notamment un doublé de Ben Malango. Les Corbeaux, leaders du groupe, puisque le MC Alger a été accroché à domicile 1-1 par les Marocains de Difa El Jadida.
Pas de vainqueur dans le choc du groupe C entre Mamelodi Sundowns et le Wydad de Casablanca.
Un score nul de 1 but partout entre 2 anciens vainqueurs de cette compétition. Le Wydad tenant du titre en déplacement à Pretoria et le Mamelodi Sundowns sacré en 2016. Un nul dont profitent les Guinéens de Oroya. Les joueurs de Conakry sont allés battre 2-1 à Lomé l'AS Togo Port. Enfin, dans le groupe D, tout le monde est à égalité après cette première journée. Un partout entre le Primero do Agosto et l'Étoile du Sahel. Même score entre le Zesco United et les Mamban Swallows.
On parle à présent de la Coupe de la Confédération Élysée et coup d'envoi également de la phase de groupe avec 8 matchs joués.
Effectivement, Idrissa et la SEC d'Abidjan, vainqueur 1-0 des Ghanéens d'Adouanan Stars, profitent du nul blanc entre le Raja et la SV Club pour prendre la tête du groupe A. Belle entrée également du second club ivoirien. William Spiel s'impose 1-0 face au Kara Brazzaville. Le second match du groupe a vu Enima battre Djoliba de Bamako sur le score de 2-0.
La suite des résultats dans les autres matchs.
Dans la poule B, Al Masry et Berkane partagent la première place suite à leur victoire respective contre l'US Songo et Al Hilal du Soudan. Et puis l'USM Alger est le seul leader du groupe D. Le club algérien a battu 4-0 les Tanzanais de Young Africans.
Football toujours avec le tournoi UFOA des moins de 20 ans. La Gambie remporte la coupe.
Les jeunes Scorpions ont battu en finale le pays hôte de cette édition, le Libéria, score 2-1. La Gambie enlève donc la première édition de cette compétition organisée par la zone A de l'UFOA. Pour être complet, le Mali termine 3e suite à sa victoire de 1-0 face à la Côte d'Ivoire.
Le Bénin, prochain adversaire de la Gambie en éliminatoire de la CAN des moins de 20 ans, était hier en amical.
Oui, à Brazzaville contre la sélection junior du Congo. Le match s'est soldé sur un résultat nul de 1-0. Précisons que le Bénin ira en Gambie le 19 mai prochain pour le compte du 2e tour aller des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans Niger 2019. Et puis, on termine avec les playoffs de la NBA Idrissa. Golden State se rapproche de la finale de la conférence Ouest.
Oui, les Warriors n'ont besoin pour cela que d'une autre victoire. Ils ont battu la Nouvelle-Orléans 118-92 et mènent la série 3-1. Même chose pour les Rockets de Houston, 3-1. après une autre défaite des Utah Jazz, 100-87.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko, ancien candidat à l'élection présidentielle de mars 2016, va enfin passer devant le juge à la cour criminelle. Son procès s'ouvre ce matin à Brazzaville où ses avocats ont opté pour la loi du silence tandis que les autorités dénoncent la non-constitution dans le dossier des avocats français qui boudent ce procès depuis Paris, nous dit de Brazzaville notre correspondant Arsène Séverin.
L'affaire est bel et bien affichée sur le rôle de la cour criminelle de ce lundi. Les avocats de l'officier supérieur, disant n'avoir pas été officiellement notifiés, ont confirmé à VO Afrique leur stratégie du silence. Silence jusqu'à la fin de cette première audience, selon maître Eric Yvan Ibwanga. Parlons justement de ces avocats. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Thierry Mungala, a révélé que les avocats qui sont basés à Paris ne s'étaient jamais constitués dans cette affaire.
En tant que membre de l'exécutif, je n'ai pas à commenter le temps judiciaire, c'est-à-dire le tempo, le rythme utilisé par le pouvoir judiciaire. Voici enfin arrivé le temps de la justice, de M. Mokoko et de la présentation des charges qui pèsent à son encontre. Nous allons tous, en tant que citoyens congolais, suivre et voir dans quelle mesure M. Mokoko défendra sa position. Il y a quelques avocats qui se réunissent à Paris, qui font des conférences de presse, qui eux ne se sont pas constitués dans le dossier. C'est-à-dire qu'au moment où nous parlons, ils sont peut-être les avocats de M. Mokoko à Paris, mais ils ne sont pas constitués dans le dossier de Brazzaville. À partir du moment où vous ne vous êtes pas constitué pour un client, ben vous n'avez pas accès au dossier et vous n'êtes qu'une sorte de commentateur du dossier dont vous ne connaissez ni les tenants ni les aboutissants.
Dans le milieu des soutiens du général Jean-Marie Michel Mokoko, les langues se délient. C'est le cas de Clément Mirassa, l'un des compagnons du général, qui appelle la population à manifester leur soutien au général en se rendant ce matin au tribunal de Brazzaville.
J'aurais pu dire qu'il serait bon pour tous ceux qui ont soutenu Jean-Marie Michel Mokoko, s'ils le peuvent, qu'ils viennent pour soutenir Jean-Marie Michel Mokoko. Et j'espère aussi que les conditions d'accès au tribunal seront faciles et qu'il n'y aura pas d'obstacles. Il faut que les gens se sentent libres et que de façon calme et de façon sereine, qu'ils puissent les soutenir.
Même pour l'Observatoire congolais des droits de l'homme, qui a depuis longtemps réclamé ce procès, les dés sont pipés. Trésor Ndilakende, son directeur exécutif, parle même d'un procès politique destiné à écarter un adversaire.
Le jeu est déjà joué d'avance, tout est clair. On n'aura pas un procès juste et équitable. C'est un procès inique. Nous allons assister à une parodie de justice.
Le juriste Christian Bouanga, connu pour sa ligne proche du pouvoir, affirme que le dossier est bien crédible et qu'un procès valait la peine.
C'est l'opinion d'un défenseur. Le dossier est vide. Qu'est-ce qu'un dossier vide? Les éléments contenus dans cette vidéo, tant audio que visuel, permettre, n'est-ce pas, la réunion des éléments constitutifs des infractions qui sont reprochées au général Mokoko. Lorsqu'on n'est pas en mesure de s'attaquer au fond, on cherche à tirer avantage des éléments périphériques.
Le procès qui s'ouvre ce lundi va durer 10 jours jusqu'au 17 mai prochain. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, le CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti de l'ancien président Blaise Compaoré, a élu hier à sa tête Eddy Komboigo. À l'issue de son congrès de 2 jours, le CDP, qui connaissait des querelles de leadership depuis sa perte du pouvoir en 2014, dit être désormais unifié pour revenir en 2020 aux affaires. Compte rendu du correspondant de VO Afrique à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Le palais des sports du quartier Ouaga 2000 était plein. tous des militants du CDP. Après deux jours de congrès, Eddy Kombéogo, 54 ans, a été élu président du parti.
Au soir de ce congrès, je tiens à vous dire que le CDP est un parti fort, qui a beaucoup de ressources et qui a la capacité d'une résilience que vous n'imaginez pas. Nous sommes satisfaits de ce qui s'est passé. Et nous sortons avec une équipe plus grande et plus conquérante.
Près d'une vingtaine de candidats étaient en lice pour prendre la tête de ce parti, fragilisé par des querelles de leadership. Mathias Ouédraogo, nouvellement élu secrétaire national à la formation des jeunes, élèves et étudiants.
Vous avez vu un congrès apaisé. C'est le CDP et le Burkina qui gagnent à travers ce congrès. On a mis l'intérêt supérieur en avant et les consignes du fondateur Blaise Compaoré étaient au-dessus de tout. Les contentieux qu'il y avait entre nous, aujourd'hui on a pu se retrouver ensemble et on a unifié une équipe forte, une équipe qui va attaquer 2020 avec espoir.
Les militants du CDP se disent confiants qu'à la présidentielle de 2020, le parti va regagner le palais de Kouassiam.
Tout est rentré en ordre, hein. Tout est rentré en ordre. Et je suis 100% sûr. 100% sûr qu'on va passer.
Ils ont tiré leçon de la gestion passée, donc ils vont prendre note pour pouvoir mieux se préparer en 2020.
Ce congrès est fini, certes, mais le travail reste sur le terrain. Nous avons en face de nous un adversaire de taille. Ces gens ne me font pas peur. Je serai sur le terrain et je demande l'accompagnement de la jeunesse.
Blaise Compaoré, absent physiquement, mais présent dans les esprits. L'homme qui a fui s'est réfugié en Côte d'Ivoire, où il a pris la nationalité ivoirienne, a été longuement ovationné par les militants. Blaise Compaoré a même été fait président d'honneur. Alpha Yago, secrétaire national chargé du mouvement associatif.
C'était le combat de nombreux blaisistes et c'était la moindre des choses qu'on pouvait lui faire en lui rendant cet hommage. Il était déjà consacré fondateur du parti lors des derniers congrès et cette fois-ci, il a été au relais du titre de président d'honneur et qui a un rôle dans les statuts. Il reste donc le ciment de l'unité de la cohésion au sein du parti.
Les nouveaux dirigeants du CDP comptent déjà se mettre au travail pour la reconquête du pouvoir perdu par une insurrection populaire en octobre 2014. Lamine Traoré, Ouagadougou, VO Afrique.
Au Mali, à la suite de conflits intercommunautaires, une centaine de personnes ont fui les combats dans le centre du pays. Toutes originaires du cercle de Koro, région de Mopti, ces personnes déplacées ont été accueillies à Bamako grâce à la solidarité des amis de la culture Peul. Appel a été lancé aux autorités lors d'une conférence de presse pour qu'elles trouvent une solution définitive à ces combats. De Bamako, un reportage sur place de notre correspondant Kassim Traoré.
Djalakorobougou, banlieue bamakoise, est dans une maison inachevée que les 38 enfants, 24 femmes et 19 hommes rescapés de conflits de Koro sont logés. Dans la vaste cour, il y a une bâche installée, une chambre réservée à la vieille de 70 ans secouée par le voyage. Dans une autre, il y a une jeune dame qui est sous sérum. Malado Sissé, assise dans la cour, épulche des oignons, mais se rappelle de son calvaire. Ce sont les donceaux qui sont venus attaquer nos quatre villages. Il y a eu des morts. Nous avons perdu nos hommes et des biens. Les chasseurs traditionnels ont aussi mis le feu à nos cases. C'est pour cela que nous avons été obligés de vendre des chèvres à 1500 francs et des bœufs à 5000 francs pour venir à Bamako. Les nouveaux locataires de la famille Badi Djalakorobougou n'ont rien oublié des différentes attaques qui ont occasionné leur départ. Maïmouna Diko, déplacé. C'est notre chef de village qui a été tué, ainsi que trois autres personnes. Nos céréales, nos vivres et nos bétails et nos animaux ont été aussi tués et conduits vers d'autres horizons. C'est pour cela que nous avons fui pour venir à Bamako en attendant que le calme revienne. Ces personnes ont fui les attaques des groupes armés menées contre leur village. Professeur Aliou Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale du Mali.
Il faut arrêter la possibilité donnée à certains de rentrer dans des maisons, de sortir les citoyens et de les exiger. Ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter le fait que certains on leur interdit d'être en moto. On va juste dans leur maison, on prend leur moto, on les brûle sur la place publique et d'autres se promènent gaillardement, l'arme sur l'épaule. Ce sont ces injustices que la communauté peut ne pourra pas. Il nous faut un État juste et impartial. Pourtant, c'est ce que disait Ibeka quand il est arrivé au pouvoir.
La communauté peut, à travers l'association sont des amis de la culture Peul, ne veulent plus croiser les bras face à ces conflits. Abdulaziz Diallo, président de l'association Tabital Poulako.
Nous sommes en train de les apaiser sur le plan psychologique, sur le plan moral, mais notre objectif à terme, c'est de les retourner dans les villages, de réunir toutes les conditions pour qu'ils puissent rejoindre leur village et reprendre leurs activités. On est en train de s'organiser pour ça. Nous avons mis une commission en place qui est en train de faire le diagnostic pour voir. De toutes les façons, l'endroit où ils logent, ce n'est pas un endroit idéal. Nous allons dénoncer et nous allons nous défendre.
Tout au long de la rencontre avec les journalistes, la confrérie des Donceaux, chasseurs traditionnels, a été accusée d'exactions contre des civils. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, le gouvernement a annoncé l'interdiction de la production et de l'importation du sirop à la codéine dans le pays. La colère des autorités fait suite à un trafic criminel et non autorisé de la substance qui se répand et détruit la vie de plusieurs jeunes Nigérians. L'Agence nationale de contrôle des aliments et des médicaments a fait une descente dans 4 sociétés pharmaceutiques à Lagos, Ilorin et Kano. Reportage de Gilbert Tamba, correspondant de VOA Afrique au Nigeria.
Les autorités fédérales affirment que l'interdiction de vente et d'importation de tout sirop contenant de la codéine sans prescription médicale vise à mettre fin à un abus très important dans le pays. Le produit est hautement addictif et peut donc être acheté et consommé librement sur ordonnance. Problème, des milliers de personnes l'utilisent non pas pour se soigner contre la toux, mais bel et bien parce qu'il est addictif comme une drogue. Atimens Superior Adegoto est pharmacien et propriétaire d'une pharmacie dans un quartier populaire de la capitale.
Un des effets négatifs majeurs est que cette substance te saoule et fait somnoler. Lorsque vous en utilisez une grande quantité, cela vous donne un sentiment d'euphorie, comme si vous vous trouviez dans un autre monde. Et donc, lorsqu'ils la prennent en grande dose, c'est comme une drogue.
Selon le président de l'Association des pharmaciens d'Abuja, la capitale fédérale, une campagne de sensibilisation pour informer du danger de ces produits a commencé il y a 2 ans. Pour Sonde Ike, l'interdiction de vente de sirop à la codéine n'est pas la solution totale au problème, mais il faut plutôt combattre le système chaotique de distribution des produits pharmaceutiques au Nigeria.
Pour nous, l'interdiction n'est pas une solution, c'est juste temporaire. Le gouvernement doit faire plus pour contrôler le système chaotique de distribution des produits pharmaceutiques au Nigeria. Les gens qui ne sont pas formés ne doivent pas gérer les produits pharmaceutiques. Lorsque les professionnels gèrent les produits, il est plus facile de les sanctionner en cas de problème.
Ces produits s'achètent en pharmacie au Nigeria, mais la prescription faite par les médecins traitants n'est pas toujours respectée dans plusieurs cas, ou encore ils sont achetés dans les pharmacies de la rue. Dr Oumar Ousmane est médecin au centre de santé de Garki d'Abuja, une structure sanitaire du gouvernement.
Et docteur prescribe, the cough syrup.
Un médecin prescrit un sirop contre la toux pour traiter un malade et généralement la période d'utilisation du produit est indiquée. Par exemple, si je veux prescrire un sirop contre la toux contenant de la codéine ou pas, je ne vais pas le donner pour plus de 5 jours. Mais à cause des effets secondaires de ce produit, les malades le prennent au-delà de la période de prescription.
Il est difficile de donner des statistiques précises sur l'importation ou la consommation de ces substances au Nigeria à ce jour, mais selon un rapport fédéral, près de 3 millions de bouteilles contenant de la codéine sont consommées chaque jour, de quoi inquiéter les autorités qui viennent de lancer une chasse aux vendeurs et utilisateurs de ces produits. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la syphilis.
Il s'agit d'une infection sexuellement transmissible qui touche plus de 5 millions de personnes chaque année dans le monde. En l'absence de traitement, la maladie affecte le cœur et même le cerveau.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Gisèle Kilombazeka, médecin à Beni en RDC. Elle nous parlera des causes, des symptômes et surtout des conseils pour éviter ou soigner la maladie.
Nous écouterons aussi le docteur Fanny Malonga, gynécologue en RDC. Avec elle, nous aborderons la syphilis congénitale, une forme de syphilis qui se transmet des femmes enceintes aux enfants. Nous écouterons enfin le docteur Mahindo Alongo Mike Antoine, co-auteur d'une étude sur la question.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur.
Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.